Ramuncho, deuxième partie, chapitre 13. Des semaines encore ont passé, en préparatifs, en indécision inquiète sur la manière d'agir, en changement brusque de plans et d'idées. Entre-temps, la réponse de l'oncle Ignacio est parvenue à César. Si son neveu avait parlé plus tôt, a-t-il écrit, il aurait été content de le recevoir chez lui. Mais voyant ses hésitations, il s'est décidé à prendre femme, bien que déjà sur le retour de l'âge, et depuis 2 mois, un enfant lui est né. Alors, plus aucune protection à attendre de ce côté-là. L'exilé, en arrivant là-bas, ne trouverait même pas de gîte. La maison familiale a été vendue. Chez le notaire, les questions d'argent ont été réglées. Tout le petit avoir de Ramuncho a été réalisé en pièces d'or dans sa main. Et à présent, c'est aujourd'hui le jour de la tentative suprême, le grand jour. Et déjà, les épaisses feuilles sont revenues aux arbres. Le revêtement des hauts foins couvre à nouveau les prairies. On est en mai. Dans la petite voiture que traîne le fameux cheval si rapide, il roule par les ombreux chemins de montagne à Rochcoa et Ramuncho, vers ce village d'Amesqueta. Il roule vite. Il s'enfonce au cœur d'une infinie région d'arbres. Et à mesure que l'heure passe, tout devient plus paisible autour d'eux et plus sauvage, plus primitif les hameaux, plus solitaire le pays basque. À l'ombre des branches, sur les berges de ces chemins, il y a des digitales roses, des silènes, des fougères, presque la même flore qu'en Bretagne. Ces deux pays d'ailleurs, le basque et le breton, se ressemblent toujours par le granit qui est partout et par l'habituelle pluie, par l'immobilité aussi et par la continuité du même rêve religieux. Au-dessus des deux jeunes hommes partis pour l'aventure, s'épaississent les gros nuages coutumiers, le ciel sombre et bas, qui est le plus souvent le ciel d'ici. La route qu'ils suivent, dans ces défilés de montagnes toujours plus hautes, est verte, délicieusement creusée en plein ombre, entre des parois de fougères. Immobilité de plusieurs siècles, immobilité chez les êtres et dans les choses. On en a de plus en plus conscience à mesure que l'on pénètre plus avant dans cette contrée de forêt et de silence. Sous ce voile obscur du ciel, où se perdent les cimes des grandes Pyrénées, apparaissent et s'enfuient des logis isolés, des fermes centenaires, des hameaux de plus en plus rares, et c'est toujours sous la même voûte de chênes, de châtaigniers sans âge, qui viennent tordre jusqu'au rebord des sentiers leurs racines comme des serpents moussus. Ils se ressemblent d'ailleurs, ces hameaux séparés les uns des autres par tant de bois, par tant de fouillis de branches, et habités par une race antique, dédaigneuse de tout ce qui trouble, de tout ce qui change l'humble église, le plus souvent sans clocher, avec une simple compagnie sur sa façade grise, et la place, avec son mur peinture lurée, pour ce traditionnel jeu de paume, où, de père en fils, les hommes exercent leurs muscles durs. Partout, la saine paix de la vie rustique, dont les traditions au Pays basque sont plus immuables qu'ailleurs. Les quelques bérets de laine que les deux téméraires rencontrent sur le rapide passage s'inclinent tous pour un petit salut, par politesse générale d'abord et par connaissance surtout, car ils sont, à Rochcoa et Ramuncho, les deux célèbres joueurs de pelote de la contrée. Ramuncho, bien des gens, il est vrai, l'avait oublié, mais à Rochcoa, tout le monde, de Bayonne à Saint-Sébastien jusqu'au front des campagnes perdues, connaît sa figure aux saines couleurs et le retroussi de sa moustache de chat. Partageant le voyage en deux étapes, ils ont couché cette nuit à Mendichoco, et à présent ils roulent vite, les deux jeunes hommes, si préoccupés sans doute qu'ils se soucient à peine de ménager pour cette nuit l'allure de leur bête vigoureuse. Itchoua cependant n'est pas avec eux. À la dernière minute, une terreur est venue à Raymond de ce complice qu'il sentait capable de tout, même de tuer. Dans un subit effarement, il a refusé le concours de cet homme, qui pourtant se cramponnait à la bride du cheval pour l'empêcher de partir. Fiévreusement, il lui a jeté de l'or dans les mains pour payer ses conseils, pour acheter la liberté d'agir seul, l'assurance au moins de ne pas se souiller de quelques crimes, pièce par pièce. Pour se dégager, il lui a laissé la moitié du prix convenu. Puis, le cheval lancé au galop, quand l'implacable figure s'est évanouie derrière un tournant d'arbre, il s'est senti la conscience allégée. « Tu laisseras cette nuit ma voiture à Ranots, chez Burgoiti, l'aubergiste avec qui s'est entendu, » dit Rochcoa. « Car tu comprends. Moi, le coup fait, ma sœur partie, je vous quitte. Je ne veux pas en savoir davantage. Nous avons du reste une affaire avec les gens de Buruzabal. des chevaux à passer en Espagne ce soir même, non loin des Mesqueta, précisément à 20 minutes de route à pied, et j'ai promis d'y être avant 10 heures. Qu'est-ce qu'ils feront? Comment s'y prendront-ils exactement? Ils ne le voient pas bien, les deux frères alliés. Cela dépendra de la tournure des choses. Ils ont différents projets, tous hardis et habiles, suivant les cas qui pourraient se présenter. Deux places sont d'ailleurs retenues, l'une pour Raymond et l'autre pour elle, à bord d'un grand paquebot d'émigrants sur lequel déjà les bagages sont embarqués et qui part demain soir de Bordeaux en portant quelques centaines de Basques aux Amériques. À cette petite station d'Aranots, où la voiture les déposera tous deux, l'amante et l'amant, ils prendront le train pour Bayonne à 3 heures du matin, au passage, et à Bayonne ensuite, l'express d'Irun à Bordeaux. Ce sera une fuite empressée, qui ne laissera pas à la petite fugitive le temps de penser, de se ressaisir dans son affolement, dans sa terreur, sans doute aussi dans son ivresse délicieusement mortelle. Une robe, une mantilla gracieuse sont là, toutes prêtes, au fond de la voiture, pour remplacer le béguin et l'uniforme noir des choses qu'elle portait autrefois, avant sa prise de voile, et qu'Arochkoa s'est procuré dans les armoires de sa mère. Et Raymond songe que ce sera peut-être elle tout à l'heure, qu'elle sera peut-être là, à ses côtés, très près, sur ce siège étroit, enveloppée avec lui dans la même couverture de voyage, fuyant au milieu de la nuit pour lui appartenir ensuite, tout aussitôt, et pour jamais. En y songeant trop, il se sentit pris encore de tremblements et de vertiges. « Moi, je te dis qu'elle te suivra !» répète son ami, lui frappant rudement sur la cuisse en manière d'encouragement protecteur, dès qu'il le voit assombri et parti dans le rêve. « Moi, je te dis qu'elle te suivra, j'en suis sûr. Si elle hésite, eh bien, laisse-moi faire. Si elle hésite, alors un peu de violence. Ils y sont résolus. Oh, très peu. Rien que ce qu'il faudra. Rien que dénouer, écarter les mains des vieilles nonnes tendues pour la retenir. Puis, on l'emporterait jusqu'à la petite voiture, où infailliblement, le contact enlaçant et la tendresse de son amie d'autrefois auront vite fait d'entraîner sa jeune tête. Comment cela se passera-t-il, tout cela? Ils ne le savent pas d'une façon précise encore, se rapportant beaucoup à leur esprit de décision et d'à-propos, qui les attirait déjà de tant de passes dangereuses. Mais ce qu'ils savent bien, c'est qu'ils ne faibliront pas. Et ils vont de l'avant, toujours, s'excitant l'un par l'autre. On les dirait solidaires à présent jusqu'à la mort, fermes et décidés comme deux bandits à l'heure où il faut jouer la partie capitale. Le pays des ramures touffues qu'ils traversent, sous l'oppression de très hautes montagnes que l'on ne voit pas, et tout en ravins profonds et déchirés, en repli d'abîmes, où des torrents bruissent sous la verte nuit des feuillets. Les chênes, les hêtres, les châtaigniers deviennent de plus en plus énormes, vivant à travers les siècles d'une sève toujours fraîche et magnifique. Une verdure puissante, tranquille, est jetée là sur toute cette géologie tourmentée. Depuis des millénaires, elle la couvre et l'apaise sous la fraîcheur de son immobile manteau. Et ce ciel nébuleux, presque obscur, qui est familier au Pays basque, ajoute à l'impression que l'on a d'une sorte d'universel recueillement où les choses seraient plongées. Une étrange pénombre descend de partout, descend des nuages d'abord, descend des épais voiles gris tendus au-dessus des branches, descend des grandes Pyrénées cachées derrière les nuages. Et, au milieu de cette immense paix et de cette nuit verte, ils passent, Ramuncho et Arochkoa, comme deux jeunes perturbateurs à leur rompre des charmes au fond des forêts. D'ailleurs, à tous les carrefours des chemins, des vieilles croix de granit se lèvent, comme en signal d'alarme pour leur crier gare, de vieilles croix avec cette inscription sublimement simple, qui est ici, comme la devise de toute une race, « O crux ave spes unica ». Bientôt, le soir. Maintenant, ils sont silencieux, parce que l'heure s'en va, parce que le moment approche, parce que toutes ces croix sur la route commencent presque à les intimider. Et le jour baisse, sous ce voile triste qui se maintient au ciel. Les vallées deviennent plus sauvages, tout le pays plus désert. Et au coin des chemins, les vieilles croix se dressent toujours avec leurs inscriptions pareilles, « O crux ave spes unica ». À Mesqueta, au dernier crépuscule, ils arrêtent leur voiture à un carrefour du village, devant la cidrerie. Arochkoa est impatient de monter à la maison des sœurs, contrarié d'arriver si tard. Il craint qu'on ne le rouvre plus une fois la nuit tombée. Ramuncho, silencieux, se laisse faire, s'abandonne à lui. C'est là-haut, à mi-côte, c'est cette maison isolée qu'une croix surmonte et que l'on voit encore se détacher en blanc sur la masse plus foncée de la montagne. Il recommande que, sitôt le cheval un peu reposé, on ramène la voiture toute prête à un tournant, là-bas, pour les attendre. Puis, tous deux s'engagent dans l'avenue d'arbres qui mène à ce couvent et où l'épaisseur des feuillages de mer rend l'obscurité presque nocturne. Sans rien dire, sans faire de bruit avec leurs semelles de cordes, ils montent, l'allure souple et facile. Autour d'eux, les compagnes profondes s'imprègnent des immenses mélancolies de la nuit. Arochkoa frappe du poing à la porte de la paisible maison. « Je voudrais voir ma sœur, s'il vous plaît, » demande-t-il à une vieille nonne qui entr'ouvre étonnée. Avant qu'il ait fini de dire, un cri de joie s'envole du corridor obscur. Une religieuse, qu'on devine toute jeune malgré l'enveloppement de son costume dissimulateur, se précipite, lui prend les mains. Elle l'a reconnu, lui, à sa voix. Mais a-t-elle deviné l'autre qui se tient derrière et qui ne parle pas? La supérieure est accourue aussi, et dans l'obscurité de l'escalier, les fait monter tous au parloir du petit couvent campagnard. Puis, elle avance les chaises de paille, et chacun s'assied. Arochkoa près de sa sœur, Marémont en face. Ils sont l'un devant l'autre, enfin, l'amante et l'amant. Et un silence plein de battements d'artères, plein de soubresauts d'âme, plein de fièvre descend sur eux. Vraiment, voici que dans ce lieu, on ne sait quelle paix presque douce, et un peu tombale aussi, enveloppe d'élabore l'entrevue terrible. Au fond des poitrines, les cœurs frappent à grands coups sourds. Mais les paroles d'amour ou de violence, les paroles meurent avant de passer les lèvres. Et cette paix, de plus en plus établie, il semble qu'un suaire blanc peu à peu recouvre tout ici, pour calmer et éteindre. Rien de bien particulier pourtant, dans ce parloir si humble. Quatre murs absolument nus, sous une couche de chaux, un plafond de bois brut, un plancher où l'on glisse, tant il est ciré soigneusement. Sur une console, une vierge de plâtre, déjà distincte, parmi toutes les blancheurs semblables de ces fonds où le crépuscule de mai achève de mourir. Et une fenêtre sans rideau, ouverte sur les grands horizons pyrénéens envahis par la nuit. Mais, de cette pauvreté voulue, de cette simplicité blanche, se dégage une notion d'impersonnalité définitive, de renoncement sans retour, et l'irrémédiable des choses accomplies commence de se manifester à l'esprit de Ramuncho, tout en lui apportant une sorte d'apaisement quand même, de subite et involontaire résignation. Les deux contrebandiers, immobiles dans leurs chaises, n'apparaissent plus guère qu'en silhouette, carrure large sur tout ce blanc des murs, et de leurs traits perdus à peine voit-on le noir plus intense des moustaches et des yeux. Les deux religieuses, au contour unifié par le voile, semblent déjà deux spectres tout noirs. « Attendez, sœur Marie-Angélique, » dit la supérieure à la jeune fille transformée, qui jadis s'appelait Gracieuse. « Attendez, ma sœur, que j'allume une lampe, qu'au moins vous puissiez voir sa figure à votre frère. » Elle sort, les laissant ensemble, et de nouveau le silence tombe sur cet instant rare, peut-être unique, impossible à ressaisir où ils sont seuls. Elle revient avec une petite lampe qui fait briller les yeux des contrebandiers. Elle a vogué l'air bon, demande en regardant Ramuncho. « Et celui-là? C'est un second frère, je parie. »« Oh non !» dit Arochkoa d'un ton singulier. « C'est mon ami seulement. » En effet, il n'est pas leur frère, ce Ramuncho qui se tient là, farouche et muet. Et comme il ferait peur aux nonnes tranquilles, si elles savaient quel vent de tourmente l'amène. Le même silence retombe, lourd et inquiétant, entre ces êtres qui, semble-t-il, devraient causer simplement de choses simples. Et la vieille supérieure le remarque, déjà s'en étonne. Mais les yeux vifs de Ramuncho s'immobilisent, se voilent comme par la fascination de quelque invisible dompteur. Sous la dure enveloppe encore un peu haletante de sa poitrine, le calme imposé continue de pénétrer et de s'étendre. Sur lui sans doute agissent les mystérieuses puissances blanches qui sont ici dans l'air. Des hérédités religieuses qui sommeillaient au tréfond de lui-même l'emplissent à présent d'une soumission et d'un respect inattendu. Les antiques symboles le dominent. Ces croix rencontrées ce soir le long des chemins et cette vierge de plâtre d'une couleur de neige immaculée sur le blanc sans tache du mur. Allons, causez, causez, mes enfants, des choses du pays, des choses des Césars, dit la supérieure à Gracieuse et à son frère. Et tenez, nous allons vous laisser seuls si vous voulez, ajoute-t-elle, avec un signe à Ramuncho, comme pour l'emmener. Oh, oh non, proteste Arochecoa, qu'il ne s'en aille pas. Non, ce n'est pas lui qui nous empêche. Et la petite nonne, si embéguinée à la manière du Moyen-Âge, baisse encore plus la tête pour se maintenir les yeux cachés dans l'ombre de la coiffe austère. La porte reste ouverte. La fenêtre reste ouverte. La maison, les choses, gardent leur air d'absolue confiance, d'absolue sécurité, contre les violations et les sacrilèges. Maintenant, deux autres sœurs qui sont très vieilles dressent une petite table, mettent deux couverts, apportent pour Arochecoa et son ami un petit souper, un pain, un fromage, des gâteaux, des raisins hâtifs de leur treille. En arrangeant ces choses, elles ont une gaieté jeunette, un babil presque enfantin, et tout cela détonne bien étrangement à côté de ces violences ardentes qui sont ici même, mais qui se taisent, et qui se sentent refoulées, refoulées de plus en plus au fond des âmes, comme par les coups de quelques sourdes massues feutrées de blanc. Et malgré eux, les voici attablés, les deux contrebandiers, l'un devant l'autre, cédant aux instances et mangeant distraitement les choses frugales sur une nappe aussi blanche que les murs. Leurs larges épaules, habituées au fardeau, s'appuient au dossier des petites chaises, leur font craquer les boiseries frêles. Autour d'eux vont et viennent les sœurs, toujours avec ces bavardages discrets, ces rires puérils, qui s'échappent un peu étouffés de dessous les béguins. Seule, elle demeure muette et sans mouvement, la sœur Marie-Angélique, debout auprès de son frère qui est assis. Elle pose la main sur son épaule puissante, si svelte à côté de lui, on dirait quelque sainte d'un primitif tableau d'église. Ramuncho, sombre, les observe tous deux. Il n'avait pas bien pu revoir encore le visage de Gracieuse, tant la cornette l'encadre et le dissimule sévèrement. Ils se ressemblent toujours, le frère et la sœur, dans leurs yeux très longs, qui cependant ont pris des expressions plus que jamais différentes, demeure quelque chose d'inexplicablement pareil. Persiste la même flamme, cette flamme qui a poussé l'un vers les aventures et la grande vie des muscles, l'autre vers les rêves mystiques, vers la mortification et l'anéantissement de la chair. Mais elle est devenue aussi frêle que lui est robuste. Sa gorge sans doute n'est plus, ni ses reins. Le vêtement noir où son corps demeure caché descend tout droit, comme une gaine n'enfermant rien de charnel. Et maintenant, pour la première fois, il se contemple en face, l'amante et l'amant, Gracieuse et Ramuncho. Leurs prunelles se sont rencontrées et fixées. Elle ne baisse plus la tête devant lui. Mais c'est comme d'infiniment loin qu'elle le regarde. C'est comme de derrière d'infranchissables brumes blanches, comme de l'autre rive de l'abîme, de l'autre côté de la mort. Très doux pourtant, son regard indique qu'elle est comme absente, repartie pour de tranquille et inaccessible ailleurs. Et c'est Raymond à la fin qui, plus dompté encore, abaisse ses yeux ardents devant les yeux vierges. Elle continue de babiller les sœurs. Elle voudrait les retenir tous deux à Emesqueta pour la nuit. Le temps, disent-elles, est si noir et la pluie menace. Monsieur le curé, qui est allé porter la communion à un malade dans la montagne, va revenir. Il a connu Arochecoa jadis à César, où il était vicaire. Il serait content de lui donner une chambre dans la cure, et à son ami aussi, bien entendu. Mais non, Arochecoa refuse après un coup d'œil d'interrogation grave à Ramuncho. Impossible de coucher ici. Ils vont même s'en aller tout de suite, après quelques minutes de dernière causerie, car on les attend là-bas, pour des affaires, du côté de la frontière espagnole. Elle qui, d'abord, dans son grand trouble mortel, n'avait pas osé parler, commence à questionner son frère, tantôt en basque, tantôt en français. Elle s'informe de ceux qu'elle a pour jamais abandonnés. Et la mère? Toute seule, à présent, au logis? Même la nuit?
Oh non, dit Arochecoa, il y a toujours la vieille Catherine qui la garde, et j'ai exigé qu'elle couche à la maison.
Et le petit enfant d'Arochecoa, comment est-il? L'a-t-on baptisé déjà? Quel est son nom? Laurent, sans doute, comme son grand-père. Et César, leur village, est séparé d'Amesqueta par une soixantaine de kilomètres, dans un pays sans plus de communication qu'au siècle passé. Oh, nous avons beau être loin, dit la petite nonne, j'ai quelquefois de vos nouvelles tout de même. Ainsi, le mois dernier, des gens d'ici avaient rencontré au marché d'Asparène des femmes de chez nous. C'est comme cela que j'ai appris bien des choses. À Pâques, tiens, j'avais beaucoup espéré te voir. On m'avait prévenu qu'il y aurait une grande partie de paume à Ericald et que tu viendrais jouer. Alors, je m'étais dit que tu pousserais peut-être jusqu'à moi. Et pendant les 2 jours de fête, j'ai regardé bien souvent sur la route, par cette fenêtre-là, si tu arrivais. Elle montre la fenêtre, ouverte de très haut sur le noir de la campagne muette, d'où monte un immense silence, avec de temps à autre des bruissements printaniers, de petites musiques intermittentes, de grillons et de rainettes. En l'entendant si tranquillement parler, Ramuncho se sent confondu devant ce renoncement à tout et à tous. Elle lui paraît encore plus irrévocablement changée, lointaine. Pauvre petite nonne. Elle s'appelait Gracieuse. À présent, elle s'appelle Sœur Marie-Angélique. Elle n'a plus de famille. Un personnel ici, dans cette maisonnette aux blanches murailles, sans espérance terrestre et sans désir peut-être. Autant dire qu'elle est déjà partie pour la région du grand oubli de la mort. Cependant, voici qu'elle sourit, rassérénée maintenant tout à fait, et qu'elle ne semble même pas souffrir. Arochkoa regarde Ramuncho, l'interroge de son œil perçant habitué à sonder les profondeurs noires. Et dompté lui-même par toute cette paix inattendue, il comprend bien que son camarade si hardi n'ose plus, que tous les projets chancellent, que tout retombe inutile et inerte devant l'invisible mur dont sa sœur est entourée. Par moments, pressé d'en finir d'une façon ou d'une autre, pressé de briser ce charme ou bien de s'y soumettre et de fuir devant lui, il tire sa montre, dit qu'il est temps de s'en aller, à cause des camarades qui vont attendre là-bas. Les sœurs devinent bien qui sont ses camarades et pourquoi ils attendent, mais elles ne s'en émeuvent point. Basques elles-mêmes, filles et petites filles de Basques, elles ont du sang contrebandier dans les veines et considèrent avec indulgence ces sortes de choses. Enfin, pour la première fois, Gracieuse prononce le nom de Ramuncho. N'osant pas tout de même s'adresser directement à lui, elle demande à son frère avec un sourire bien calme. « Et il est avec toi, Ramuncho, à présent? Il est fixé au pays? Vous travaillez ensemble ?» Un silence encore, et Arochkoa regarde Raymond pour qu'il réponde. « Non, dit celui-ci, d'une voix lente et sombre, non. Moi, je pars demain pour les Amériques. » Chaque mot de cette réponse, scandé durement, comme un son de trouble et de défi au milieu de cette sérénité étrange. Elle s'appuie plus fort à l'épaule de son frère, la petite nonne, et Ramuncho, conscient du coup profond qu'il vient de porter, la regarde et l'enveloppe de ses yeux tentateurs, pris d'audace, attirant et dangereux, dans le dernier effort de tout son cœur empli d'amour, de tout son être de jeunesse et de flamme, fait pour les tendresses et les étreintes. Alors, pendant une indécise minute, il semble que le petit couvent a tremblé. Il semble que les puissances blanches de l'air reculent, se dissipent, comme de tristes fumées irréelles devant ce jeune dominateur, venu ici pour jeter l'appel triomphant de la vie. Et le silence qui suit, le plus lourd de tous ceux qui ont entrecoupé déjà cette sorte de drame joué à demi-mot, joué presque sans parole. Enfin, la sœur Marie-Angélique parle, et parle à Ramuncho lui-même. Vraiment, on ne dirait plus que son cœur vient de se déchirer une suprême fois à l'annonce de ce départ, ni qu'elle vient de frémir de tout son corps de vierge sous ce regard d'amant. D'une voix qui peu à peu s'affermit dans la douceur, elle dit des choses toutes simples, comme un ami quelconque. « Ah oui, l'oncle Ignacio, n'est-ce pas? J'avais toujours pensé que vous finirez par aller le rejoindre là-bas. Nous prierons toute la Sainte Vierge pour qu'elle vous accompagne dans votre voyage. » Et c'est le contrebandier qui de nouveau baisse la tête, sentant bien que tout est fini, qu'elle est perdue pour jamais, la petite compagne de son enfance, qu'on l'ensevelit dans un inviolable linceul. Les paroles d'amour ou de tentation qu'il avait pensé dire, les projets qu'il roulait depuis des mois dans sa tête, tout cela lui paraît insensé, sacrilège, inexécutable chose, bravade d'enfant. Arochkoa, qui attentivement le regarde, subit d'ailleurs les mêmes envoûtements irrésistibles et légers. Ils se comprennent, et, l'un à l'autre, sans parole, ils s'avouent qu'il n'y a rien à faire, qu'ils n'oseront jamais. Pourtant, une angoisse encore humaine passe dans les yeux de la sœur Marie-Angélique quand Arochkoa se lève pour le définitif départ. Elle prie, d'une voix changée, qu'on reste un instant de plus. Et Ramuncho, tout à coup, envie de se jeter à genoux devant elle, la tête contre le bas de son voile, de sangloter toutes les larmes qui l'étouffent, de lui demander grâce, de demander grâce aussi à cette supérieure qui a l'air si doux, de leur dire à toutes que cette fiancée de son enfance était son espoir, son courage, sa vie, et qu'il faut bien avoir un peu pitié, qu'il faut la lui rendre, parce que sans elle, il n'y a plus rien. Tout ce que son cœur à lui contient d'infiniment bon s'exalte à présent dans un immense besoin d'implorer, dans un élan de suppliante prière, et aussi de confiance en la bonté, en la pitié des autres. Et qui sait, mon Dieu, s'il avait osé la formuler, cette grande prière de tendresse pure? Qui sait tout ce qu'il aurait veillé de bon aussi, et de tendre et d'humain, chez les pauvres filles au voile noir? Peut-être cette vieille supérieure elle-même, cette vieille vierge desséchée, au sourire enfantin et aux braves yeux clairs, lui aurait ouvert ses bras comme à un fils, comprenant tout, pardonnant tout, malgré la règle et malgré les vœux. Et peut-être, gracieuse, aurait encore pu lui être rendue, sans enlèvement, sans tromperie, presque excusée par ses compagnes de cloître. Tout au moins, si c'était impossible, lui aurait-elle fait de longs adieux, consolants, adoucis par un baiser d'immatériel amour. Mais non, il reste là muet sur sa chaise. Même cela, même cette prière, il ne peut pas la dire. Et c'est l'heure de s'en aller décidément. Arochkoa est debout, agité, l'appelant d'un signe de tête impérieux. Alors, il redresse aussi sa taille fière et reprend son béret pour le suivre. Il remercie du petit souper qu'on leur a donné et ils disent « bonsoir » à demi-voix, comme des timides. En somme, pendant toute leur visite, ils ont été très corrects, très respectueux, presque craintifs, les deux superbes. Et comme si l'espoir ne venait pas de se briser, comme si l'un d'eux ne laissait pas derrière lui sa vie, les voilà qui descendent tranquillement l'escalier propre entre les blanches murailles, tandis que les bonnes sœurs les éclairent avec leurs petites lampes. « Venez, sœur Marie-Angélique !» propose gaiement la supérieure, de sa grêle voix enfantine. « Nous allons toutes les deux les reconduire jusqu'en bas, jusqu'au bout de notre avenue, vous savez, au tournant du village. » Est-elle quelque vieille fée, sûre de son pouvoir? Ou bien une simple et une inconsciente, qui joue sans s'en douter avec le grand feu dévorateur? C'était fini, le déchirement accompli, l'adieu accepté, la lutte étouffée sous des ouates blanches, et à présent, les voilà, ces deux qui s'adoraient, cheminant côte à côte dehors, dans la nuit tiède de printemps, dans l'amoureuse nuit enveloppante, sous le couvert des feuilles nouvelles et sur les hautes herbes, parmi toutes les sèves qui montent au milieu de la poussée souveraine de l'universelle vie. Ils marchent à petits pas, à travers cette obscurité exquise, comme par un silencieux accord pour faire plus longtemps durer le sentier d'ombre, muets l'un et l'autre, dans l'ardent désir et l'intense terreur d'un contact de leurs vêtements, d'un frôlement de leurs mains. Arochkoa et la supérieure les suivent de tout près, sur leurs talons, sans se parler non plus, religieuses avec leurs sandales, contrebandies avec leurs semelles de cordes, ils vont à travers ces ténèbres douces, sans faire plus de bruit que des fantômes. Et leur petit cortège, lent et étrange, descend vers la voiture dans un silence de funérailles. Silence aussi autour d'eux, partout, dans le grand noir ambiant, jusqu'au plus profond des montagnes et des bois. Et, au ciel sans étoiles, dorment les grosses nuées lourdes de toute l'eau fécondante que la terre attend et qui va s'épandre demain pour faire les bois encore plus feuillus, l'herbe encore plus haute, les grosses nuées au-dessus de leur tête couvrent toute cette splendeur de l'été méridional qui tant de fois dans leur enfance les a charmés ensemble, troublés ensemble, mais que Ramuncho ne reverra sans doute jamais plus et qu'à l'avenir, Gracieuse devra regarder comme avec des yeux de morte, sans la comprendre ni la reconnaître. Personne autour d'eux. Dans la petite allée obscure et en bas, le village semble déjà dormir. La nuit tout à fait tombée, son grand mystère est pendu partout, dans les lointains de ce pays perdu, sur les montagnes et les vallées sauvages. Et comme ce serait facile à exécuter, ce qu'avaient résolu ces deux jeunes hommes, dans cette solitude, avec cette voiture qui doit être là, toute prête, et ce cheval rapide. Cependant, sans s'être parlé, sans s'être touché, ils arrivent, les amants, à ce tournant de chemin où il faut se dire l'adieu éternel. La voiture est bien là, tenue par un petit garçon. La lanterne est allumée, et le cheval impatient. La supérieure s'arrête. C'est, paraît-il, le terme dernier de la dernière promenade qu'ils feront l'un près de l'autre en ce monde. Elle se sent le pouvoir, cette vieille nonne, d'en décider ainsi sans appel. De sa même petite voix fluette, presque enjouée, elle dit « Allons, ma sœur, faites-leur vos adieux. » Elle dit cela avec l'assurance d'une parque, dont les décrets de mort ne sont pas discutables. En effet, personne ne tente de résister à son ordre, impassiblement donné. Il est vaincu, le rebelle Ramuncho. Oh, bien vaincu par les tranquilles puissances blanches, tout frissonnant encore du sourd combat qu'il vient de finir en lui. Il baisse la tête, sans volonté maintenant, et presque sans pensée, comme sous l'influence de quelque maléfice endormeur. « Allons, ma sœur, faites-leur vos adieux, » a-t-elle dit, la vieille parque tranquille. Puis, voyant que Gracieuse se borne à prendre la main d'Arochkoa, elle ajoute « Eh bien, vous n'embrassez pas votre frère ?» Sans doute, la petite sœur Marie-Angélique ne demandait que cela, l'embrasser de tout son cœur, de toute son âme, l'étreindre, ce frère, se serrer sur son épaule et y chercher protection à cette heure de sacrifice surhumain où il faut laisser partir le bien-aimé, sans même un mot d'amour. Et pourtant, son baiser a je ne sais quoi d'épouvanté, de tout de suite retenu, baiser de religieuse, un peu pareil à un baiser de morte. À présent, quand le reverra-t-elle, ce frère, qui cependant ne va pas quitter le Pays Basque, lui? Quand aura-t-elle seulement des nouvelles de la mère, de la maison, du village? Par quelques passants qui s'arrêteraient ici, venant des Césars? À Ramuncho, elle n'ose même pas tendre sa petite main froide, qui retombe le long de sa robe, sur les grains du rosaire. Nous prierons, lui dit-elle encore, pour que la Sainte Vierge vous protège dans votre long voyage. Et maintenant elles s'en vont, lentement. Elles s'en retournent comme des ombres silencieuses, vers l'humble couvent que la croix protège. Et les deux domptés, immobiles sur place, regardent s'éloigner, dans l'avenue obscure, leur voile plus noire que la nuit des arbres. Oh, elle est bien brisée aussi, celle qui va disparaître là-haut, dans les ténèbres de la petite montée ombreuse. Mais elle n'en demeure pas moins comme anesthésiée par de blanches vapeurs apaisantes. Et tout ce qu'elle souffre s'atténuera vite sous une sorte de sommeil. Demain, elle reprendra pour jusqu'à la mort le cours de son existence étrangement simple, impersonnelle, livrée à une série de devoirs quotidiens qui jamais ne changent, absorbée dans une réunion de créatures presque neutres qui ont tout abdiqué. Elle pourra marcher, les yeux levés toujours vers le doux mirage céleste. O crux ave spes unica. Vivre, sans variation, ni trêve jusqu'à la fin, entre les murs blancs d'une cellule toujours pareille, tantôt ici, tantôt ailleurs, au gré d'une volonté étrangère, dans l'un quelconque de ces humbles couvents de village, auxquels on n'a même pas le droit de s'attacher. Sur cette terre, ne rien posséder, ne rien désirer, ne rien attendre, ne rien espérer. Accepter comme vide et transitoire les heures fugitives de ce monde, et se sentir affranchi de tout, même de l'amour, autant que par la mort. Le mystère de telles existences est bien pour demeurer à jamais inintelligible à ces jeunes hommes, qui sont là, faits pour la bataille de chaque jour, beaux êtres d'instinct et de force, en proie à tous les désirs, créés pour jouir de la vie, et pour en souffrir, pour l'aimer et pour la propager. Oh, crux ave spes unica. On ne les voit plus. Elles sont rentrées dans leur petit couvent solitaire. Les deux hommes n'ont même pas échangé un mot sur leur entreprise abandonnée, sur la cause mal définie qui a mis pour la première fois leur courage en défaut. Ils éprouvent l'un, vis-à-vis de l'autre, presque une honte de leur subite et insurmontable timidité. Un instant, leur tête fière était restée tournée vers les nonnes lentement fuyantes. À présent, ils se regardent à travers la nuit. Ils vont se séparer, et probablement pour toujours. Arochkoa remet à son ami les guides de la petite voiture que, suivant sa promesse, il lui prête. « Allons, mon pauvre Amuncho, dit-il sur le ton d'une commisération à peine affectueuse. Et la fin exprimée de sa phrase signifie clairement « Va-t'en puisque tu as manqué ton coup. Et moi, tu sais, il est l'heure où les camarades m'attendent. » Raymond, lui, allait de tout son cœur l'embrasser pour le grand adieu. Et dans cette étreinte, avec le frère de la bien-aimée, il aurait pleuré sans doute de bonnes larmes chaudes, qui pour un moment au moins l'auraient un peu guéri. Mais non. La Rochecoa est redevenue la Rochecoa des mauvais jours, le beau joueur sans âme, que les choses de hardiesse intéressent seules. Distraitement, il touche la main de Ramuncho. « Bien donc, au revoir. Bonne chance là-bas. » Et de son pas silencieux, il s'en va retrouver les contrebandiers vers la frontière, dans l'obscurité propice. Alors Raymond, seul au monde à présent, enlève d'un coup de fouet le petit cheval montagnard qui file avec son bruit léger de clochette. Ce train qui doit passer à Ranotz, ce paquebot qui va partir de Bordeaux, un instant le pousse encore à ne pas les manquer. Machinalement, il se hâte, sans plus savoir pourquoi, comme un corps sans âme qui continuerait d'obéir à une impulsion ancienne. Et très vite, lui qui pourtant est sans but et sans espérance au monde, il s'enfonce dans la campagne sauvage, dans l'épaisseur des bois, dans tout ce noir profond de la nuit de mai que les nonnes de leurs hautes fenêtres voient alentour. Pour lui, c'est fini du pays, fini à jamais, fini des rêves délicieux et doux de ses premières années. Il est une plante déracinée du cher sol basque, qu'un souffle d'aventure emporte ailleurs. Au cou du cheval, gaiement les clochettes sonnent dans le silence des bois endormis. La lueur de la lanterne, qui court empressée, montre au fuyard triste des dessous de branches, de fraîches verdures de chêne au bord du chemin, les fleurs de France de loin en loin, les murs du hameau familier, d'une vieille église, toutes les choses qu'il ne reverra jamais, si ce n'est peut-être dans une douteuse et très lointaine vieillesse. En avant de sa route, il y a les Amériques, l'exil sans retour probable, l'immense nouveau plein de surprises et abordé maintenant sans courage, toute une vie encore très longue, sans doute, pendant laquelle son âme arrachée d'ici devra souffrir et se durcir là-bas. Sa vigueur se dépenser et s'épuiser qui sait où, dans des besognes, dans des luttes inconnues. Là-haut, dans leur petit couvent, dans leur petit sépulcre aux murailles si blanches, les nonnes tranquilles récitent leurs prières du soir. Ô crux, ave, spes, unica.